Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du premier conseil des ministres de l'année, le gouvernement a présenté ce matin ses vœux au président Emmanuel Macron à l'Élysée, des vœux d'encouragement sans doute au regard du contexte social toujours tendu à la veille d'une probable nouvelle mobilisation des Gilets jaunes.
À quelques jours du grand débat national promis par l'exécutif, le groupe de réflexion Terra Nova prévient ce matin du risque de creusement d'inégalités liées à l'héritage.
Et pour y remédier, l'organisation propose donc d'augmenter l'impôt sur les successions afin de combler les recettes perdues dans la suppression de l'ISF.
Dans votre édition également, Thomas Cluzel, en Allemagne, les données personnelles de plusieurs centaines d'élus ont été publiées hier soir sur Internet par des pirates informatiques.
Et tous les principaux partis politiques sont concernés, à l'exception toutefois de la formation d'extrême droite AFD. Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, comparaîtra à sa demande la semaine prochaine devant un tribunal de Tokyo, obligeant ainsi le procureur à clarifier publiquement le motif de sa détention prolongée au Japon.
Toujours à l'étranger, à moins de 90 jours du divorce programmé entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, la tension monte.
Oui, selon un sondage publié aujourd'hui, la majorité des adhérents du parti conservateur de Theresa May sont opposés à l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles. Enfin, en République démocratique du Congo, où on attend toujours les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier, la puissante conférence épiscopale met la pression sur les autorités et lui demande de proclamer la vérité. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La famille en disruption, on va s'intéresser principalement aujourd'hui à la place du père. A-t-il encore un avenir? Comment lui réinventer une place juste aujourd'hui? Notre invité, le psychanalyste Jean-Pierre Winter, qui signe un livre à ce sujet, L'avenir du père, chez Albin Michel. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Comme à chaque veille de week-end depuis maintenant un mois et demi, la question revient inexorablement, toujours la même. Assistera-t-on demain à une énième mobilisation des Gilets jaunes? A priori, tout porte à le croire, et pas seulement parce qu'à l'heure de la tradition des vœux, tous ceux qui auront trouvé à faire rimer de justesse 2018 avec mai 68 ne manqueront probablement pas de vouloir à présent confondre 2019 et 1789. Non, outre l'adieu aux fêtes de Noël qui avait marqué un certain reflux de la contestation, voilà qu'un sondage publié hier vient attester qu'une majorité de Françaises interrogées, 55%, souhaiterait toujours que le mouvement se poursuive. À cela s'ajoutent plusieurs appels à manifester, d'ores et déjà lancés sur les réseaux sociaux, en particulier une lettre ouverte à l'intention du président de la République, diffusée via un énième groupe Facebook, La France en colère, notamment géré par un certain Éric Drouet, et qui devrait être lu demain devant l'hôtel de ville à Paris. Enfin, la garde à vue, justement, d'Éric Drouet, laquelle a pris fin hier après-midi, a provoqué une indignation telle parmi les sympathisants que de ce chauffeur routier, figure médiatique des Gilets jaunes, qu'elle pourrait bien avoir relancé le mouvement. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Thomas.
Quoi qu'il en soit, cette ultime séquence, donc, conduit à nous interroger. Cette arrestation constitue-t-elle, sinon une erreur, à tout le moins une maladresse de la part du gouvernement, ou bien répond-elle à une stratégie plus subtile, relevant de la pensée complexe revendiquée par le chef de l'État? Seule certitude, alors que l'exécutif effectue depuis ce matin son conseil des ministres de rentrée, eh bien la question des Gilets jaunes sera une fois encore au cœur des débats.
Équipe gouvernementale cherche cap sur mer agitée, en pleine nouvelle affaire Benalla, après le départ de certains proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Et en effet, à la veille de l'acte 8 des Gilets jaunes, l'objectif ce matin, c'est bien de jouer serré, de fixer ensemble les objectifs pour cette nouvelle année. C'est d'ailleurs l'image donnée par les ministres arrivés tous ensemble, regroupés dans la cour de l'Élysée, après le traditionnel petit déjeuner de rentrée au ministère de l'Intérieur. Et ce cap, il passe d'abord par l'une des priorités marquantes voulues par Emmanuel Macron, l'organisation du grand débat national, la remontée des doléances de tous les Français d'ici au printemps, mesure sur laquelle compte bien capitaliser l'exécutif pour montrer sa volonté de renouer un certain dialogue avec le terrain. Toute la question qui se pose maintenant, c'est de connaître le cadre de ce fameux débat. Repose-t-il uniquement sur des questions propres aux institutions de la République ou faut-il l'élargir à des problématiques sociales ou économiques? C'est la lettre écrite par le président de la République aux Français, diffusée d'ici la mi-janvier dans la presse et sur les réseaux sociaux, qui répondra à ces interrogations. Nul doute que le sujet a dû être discuté depuis tout à l'heure. Le cap en question, Emmanuel Macron l'a dit lors de ses vœux, il ne le changera pas. Les réformes se feront au rythme prévu avec un calendrier assez chargé, entre les retraites, l'assurance chômage ou même la réforme des institutions institutions. Autre cap peut être envisagé aussi, retrouver le soutien des Français. Selon un sondage Odoxa publié hier, 3 Français sur 4 se disent mécontents de l'action du gouvernement. Il faudra donc s'armer de patience et c'est peut-être aussi le message passé ce matin par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a offert à tous ses collègues un sablier.
Merci Steven Goyer. La contraction de l'activité dans le secteur privé liée aux perturbations provoquées par le mouvement des Gilets jaunes a été pire que ce qui était estimé au mois de décembre, au cours duquel l'activité a baissé pour la première fois en 2 ans et demi. C'est ce qui ressort d'une enquête auprès des directeurs d'achat publiée aujourd'hui. Le mouvement a été particulièrement marqué dans le secteur des services qui inclut notamment le commerce. Alors s'il nous fallait résumer d'une phrase ce mouvement de contestation des Gilets jaunes, nous pourrions sans doute relever qu'il vise peu ou prou à davantage d'équité fiscale. Reste bien entendu à savoir comment, en d'autres termes, quel procédé pourrait bien conduire in fine à faire davantage contribuer les plus fortunés. Et bien c'est très précisément pour tenter de répondre à cette question que le think tank classé à gauche Terra Nova propose, dans une note relevée ce matin par le journal Les Échos, de reconsidérer la fiscalité sur l'héritage. Marjorie Péjac, bonjour.
Bonjour.
Concrètement, le groupe de réflexion propose d'augmenter de 25% les droits de succession afin de compenser la suppression de l'impôt sur la fortune.
Alors déjà, il faut savoir qu'actuellement, les droits de succession rapportent à l'État environ 12 milliards d'euros par an. En taxant davantage les héritages, Terra Nova propose de récupérer 3 milliards d'euros supplémentaires. Ces 3 milliards, en fait, ça équivaut à ce qui a été perdu avec la suppression de l'impôt sur la fortune sur le capital. Cette proposition de Terra Nova n'est pas isolée. France Stratégie, par exemple, qui est une institution rattachée au Premier ministre, avait déjà formulé des propositions dans ce sens il y a un an. Même chose du côté du Conseil des prélèvements obligatoires rattaché à la Cour des comptes. Alors pourquoi ces demandes sont-elles de plus en plus récurrentes? Ça part d'un constat, celui que les inégalités de patrimoine sont de plus en plus grandes. D'après une étude de France Stratégie, aujourd'hui, les plus de 60 ans sont 4 fois plus riches que les trentenaires, alors qu'ils l'étaient environ 2 fois plus dans les années 80. Donc, ce que propose Terra Nova, c'est augmenter les taux d'imposition pour les plus gros patrimoines et faire varier l'abattement qui existe en fonction du patrimoine qui est transmis. Aujourd'hui, l'abattement est de 100 000 euros pour tout le monde. Donc si on transmet 100 000 euros, on n'a pas de taux d'imposition. Si on transmet 150 000 euros, on a un taux d'imposition sur 50 000 euros. Si on transmet 1 million d'euros, on a un taux d'imposition sur 900 000 euros. Donc l'idée de Terra Nova, c'est de faire varier l'abattement en fonction du patrimoine. Plus on transmet, moins cet abattement doit être grand. Terra Nova dit aussi qu'il faut revoir les dispositions de contrats d'assurance vie. Et puis il faut savoir que la France est l'un des pays où les droits de succession sont les plus élevés. En Europe, seule la Belgique fait mieux que nous. Ceux qui s'opposent à une plus grande taxation disent que c'est parce que nous sommes taxés 2 fois ce que les gens ont mis de côté durant leur vie. C'est grâce à leurs revenus qui ont déjà été imposés. Concernant l'idée de Terra Nova, reste à savoir si elle peut séduire les Français. D'après une étude l'an dernier du CREDOC, le CREDOC c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, eh bien 87% des Français sont contre une augmentation de la taxation des héritages. Ils sont même pour une diminution.
Merci Marjorie Péjac. Brexit, the Uncivil War, c'est là le titre d'un tout nouveau téléfilm qui sera diffusé à partir de lundi prochain sur les écrans britanniques. 2 heures mettant en scène les personnages clés et les stratégies à l'œuvre au cours de la campagne du référendum de 2016 avec un slogan « Tout le monde sait qui a gagné, mais peu de gens savent comment ». Et c'est peu de dire que les créateurs ne pouvaient pas espérer meilleur moment pour diffuser ce drame politique à quelques jours seulement du vote prévu au Parlement sur l'accord négocié entre Theresa May et l'Union Européenne. Un vote qui s'annonce pour le moins hasardeux, puisqu'à en croire un sondage publié aujourd'hui, la majorité des adhérents du Parti conservateur de la Première ministre britannique serait opposée au dit accord. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres, alors à moins de 90 jours maintenant du divorce. La tension monte et s'il fallait encore s'en convaincre, The Guardian nous révélait hier soir qu'un millier de policiers allaient suivre un entraînement spécifique afin de pouvoir être déployés en Irlande du Nord dans l'éventualité où un Brexit sans accord susciterait des troubles.
Absolument, ils sont un millier et ils vont, dans les semaines qui viennent, subir un entraînement spécifique pour se préparer à faire face à une montée de la violence en Écosse et surtout en Irlande. Les responsables de la police locale sont de plus en plus inquiets. Une sortie de l'Union européenne sans aucun accord pourrait en quelques jours raviver des tensions entre les catholiques républicains et les protestants unionistes. Les premiers refusent de voir ressurgir une frontière entre le nord et le sud de l'île. Les seconds refusent la solution proposée par Theresa May, qui instaurerait de fait une barrière commerciale entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Il nous est impossible de soutenir le plan que propose la Première Ministre, explique le porte-parole des unionistes du DUP, Sammy Wilson, qui dénonce une arnaque. 60% des exportations des produits agricoles et manufacturés partent vers l'Angleterre, l'Écosse ou le Pays de Galles, dit-il. S'il y a des barrières, ce sera la catastrophe. Et pour résumer les dernières discussions avec Theresa May, il emploie une métaphore cinématographique. C'est, dit-il, le jour de la marmotte. On se réveille le matin et ce sont les mêmes discours et les mêmes arguments qui reviennent jour après jour. Peu d'espoir donc qu'on s'achemine vers une solution dans les 15 jours qui viennent.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. En Allemagne, c'est une attaque informatique d'une ampleur inédite qui depuis hier soir donne de véritables sueurs froides à près d'un millier de députés à la fois nationaux, fédéraux et européens, baptisés Bundestag Leaks. Ce piratage a en effet donné lieu à la révélation de toutes sortes de données, numéros de téléphone, adresses, photos de vacances, mais aussi des conversations privées, des factures ou bien encore des emails de travail. De sorte que dans cet océan de documents figureraient déjà de possibles scandales politiques et notamment de corruption. C'est une correspondance à Berlin signée David Philippot.
Oui, c'est ce que prétend un journaliste du tabloïd Bild qui a commencé à évaluer les documents et leur authenticité car certains d'entre eux semblent avoir été falsifiés et mélangés aux informations authentiques. C'est ce que prétend un député social-démocrate qui en a été victime. On en est donc aux prémices des révélations sur ce scandale qui affecte tous les membres du gouvernement allemand. Des courriers confidentiels d'Angela Merkel ont été hackés, mais aucune information sensible la concernant vient d'affirmer une porte-parole du gouvernement. Tous les partis politiques, sauf l'AFD à l'extrême droite qui ne semble pas affecté, sont en réunion de crise pour évaluer l'ampleur des dégâts de ces millions d'informations piratées qui concernent également des journalistes ou des animateurs du service public et qui ont été publiés via un compte Twitter de Hambourg. Ce compte, qui est bien connu des services de renseignement pour diffuser des messages anti-réfugiés, a été fermé ce matin. Les informations avaient fuité depuis le 1er décembre, mais ce n'est qu'hier qu'elles ont éveillé l'attention. Le BSI, le Bureau fédéral de cyberdéfense, suspecte la main des services secrets militaires russes, déjà à l'origine ces dernières années d'attaques du même type contre le Parlement et le gouvernement allemand. Et déjà l'infiltration avait eu lieu, comme il semble que ce soit le cas via la messagerie Outlook. L'objectif de cette nouvelle attaque semble avoir été de démontrer que les hackers pouvaient aussi pénétrer la sphère privée des personnalités.
Stagnation de la croissance, hausse du chômage, accroissement de la dette, dégradation des finances publiques, tous ces mots qui nourrissent quotidiennement l'actualité figurent sur la longue liste des conséquences désastreuses de la crise de 2008. D'autres, en revanche, sont moins connus, et c'est le cas en particulier des programmes de résidence par investissement, autrement appelés les visas dorés, une pratique aussi controversée que répandue dans l'Union européenne, mais surtout une pratique dévoyée puisqu'elle devait initialement permettre aux pays les plus durement frappés par les mesures d'austérité de se refaire une santé financière en attirant les riches investisseurs étrangers. Sauf que ces mesures auront surtout permis en réalité aux individus les plus riches de mettre leur fortune à l'abri et aux organisations criminelles de s'établir en Europe en toute impunité. Alors au Portugal, le tribunal de Lisbonne doit rendre aujourd'hui son verdict dans un long procès pour corruption dans l'attribution de ces fameux visas dorés. 17 personnes au total y sont visées, dont 3 ressortissants chinois et 4 sociétés inculpées de blanchiment de capitaux et trafic d'influence. Carlos Ghosn, maintenu en garde à vue depuis plus d'un mois et demi dans une prison de la capitale japonaise, comparaîtra à sa demande la semaine prochaine devant un tribunal de Tokyo. Les avocats de l'ex-président de Nissan, mais toujours PDG de Renault, ont déposé cette demande spéciale afin d'obliger le procureur à clarifier publiquement le motif de sa détention prolongée. Les précisions à Tokyo du correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Charles.
Carlos Ghosn en est à son 3e mandat d'arrêt pour abus de confiance aggravé. Mais depuis son arrestation le 19 novembre, il nie toutes les accusations portées contre lui et ne comprend pas le motif de sa détention. Aujourd'hui, ses avocats invoquent un article de la Constitution japonaise qui précise qu'une personne placée en garde à vue peut exiger que la raison précise de sa détention soit rendue publique au tribunal. Carlos Ghosn comparaîtra mardi en personne avec son avocat. L'ex-patron de Nissan est en détention depuis le 19 novembre. Ses avocats ne peuvent pas assister à ses interrogatoires et ils n'ont pas accès aux pièces du dossier. Ce rebondissement intervient au moment où, selon le journal économique Nikkei, Carlos Ghosn aurait utilisé des fonds de Nissan, d'autres fonds, ceux de la réserve du patron, pour verser 48 millions de dollars à des connaissances, deux concessionnaires automobiles à Oman et au Liban. Carlos Ghosn est déjà soupçonné d'avoir utilisé les mêmes réserves du patron pour faire passer sur les comptes de Nissan des pertes sur des investissements personnels. Le tribunal de Tokyo a prolongé jusqu'au 11 janvier la garde à vue du PDG de Renault dans le cadre d'un troisième mandat d'arrêt pour des soupçons d'abus de confiance. Il est aussi en détention provisoire pour deux autres inculpations, la sous-déclaration aux autorités boursières japonaises d'une partie de ses revenus chez Nissan pendant 5 ans, puis 3 autres années.
Aéroports fermés et bateaux à quai en Thaïlande, des centaines de touristes sont actuellement bloqués sur les îles du Golfe, particulièrement prisées au moment des fêtes de fin d'année. Vacanciers mais aussi résidents se préparent en effet à affronter la tempête tropicale Pabuk. Le pire est attendu dans la soirée. Selon les météorologistes, il est peu probable toutefois qu'elle se transforme en typhon. En République démocratique du Congo, l'Église, l'une des institutions les plus crédibles du pays, qui avait déployé plus de 40 000 observateurs pour surveiller le déroulement du scrutin censé marquer le premier transfert démocratique du pouvoir, a repris hier son rôle de contre-pouvoir en affirmant connaître le vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Elle met désormais directement la pression sur la commission électorale et lui demande de proclamer les résultats dans le respect de la vérité et la justice. Pendant ce temps, le pouvoir, lui, se déclare serein. De son côté, l'opposition prévient qu'elle ne se laissera pas ravir la victoire. En d'autres termes, le contexte reste explosif, d'autant que le pays est toujours isolé du monde depuis que l'accès à Internet, mais aussi le signal de la radio publique française RFI ont été coupés. Les précisions à Kinshasa de notre correspondant Anthony Fouchard.
Au bord du lac Kivu, à Goma, on distingue le Rwanda à quelques kilomètres. Avec un peu de chance, il est même possible de capter le réseau 3G du pays et de contourner le blocage imposé par le gouvernement congolais. Ils sont nombreux à essayer, téléphone à la main près de la frontière. D'autres ajustent régulièrement la petite roue crantée de leur poste de radio. Radio France Internationale, une des stations les plus écoutées du pays, a été coupée sur la bande FM, mais est toujours accessible sur des fréquences en ondes courtes. Elle change toutes les heures, les Congolais ont l'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'ils doivent subir cette censure. Mais aujourd'hui, ils sont inquiets, car les résultats de la présidentielle se font encore attendre. La commission électorale n'a compilé que 20% des voix. Or, elle doit annoncer le vainqueur dimanche. Impossible de tenir ces délais, les habitants le savent. Des chancelleries occidentales jusqu'aux évêques du pays, tout le monde y va de sa petite phrase pour maintenir la pression sur le régime de Joseph Kabila, le président. Les catholiques ont annoncé avoir le nom du vainqueur quand les États-Unis affirment qu'il est nécessaire que le résultat proclamé soit conforme au vote. Le risque d'un tripatouillage des voix est dans tous les esprits. En attendant, le régime maintient le pays dans un blackout médiatique.
Aux États-Unis, la démocrate Nancy Pelosi, à peine élue hier à la présidence de la Chambre des représentants du nouveau Congrès, n'aura pas tardé à engager le bras de fer avec le locataire de la Maison-Blanche en faisant approuver par sa nouvelle majorité des mesures visant à mettre fin au shutdown qui, depuis près de 2 semaines, paralyse une partie des administrations américaines. Elle a, une fois de plus, mis Donald Trump au pied du mur, au propre comme au figuré, usant de son pouvoir de veto. Le président s'est en effet aussitôt et vigoureusement opposé à ces mesures, au prétexte qu'elle ne comprenne pas le financement de son mur censé endiguer l'immigration clandestine à la frontière mexicaine. France Culture, 12h48, invité aujourd'hui de notre page Europe, Clémentine Forissier, rédactrice en chef du journal en ligne Contexte, spécialisé dans les politiques publiques. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Une première question toutefois, Madame Forissier. Dans l'agenda particulièrement chargé de cette année 2019, on trouve évidemment le Brexit. J'évoquais tout à l'heure un sondage publié aujourd'hui selon lequel la majorité des adhérents du Parti conservateur de Theresa May sont opposés à l'accord négocié avec Bruxelles. Peut-on raisonnablement penser qu'il sera encore possible d'éviter une sortie sans accord ?
Ça, c'est très difficile de répondre à cette question. En revanche, ce qu'on peut raisonnablement penser, c'est que le vote qui aura lieu la semaine du 14 janvier sur ce projet justement que Theresa May a négocié sera rejeté. Il est très peu probable qu'elle obtienne une majorité pour faire valider cet accord. Et alors après, toutes les options sont sur la table, y compris, et de plus en plus, c'est de plus en plus fortement probable qu'il n'y ait pas d'accord et que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne un peu du jour au lendemain, sans période de transition, ce qui pose énormément de questions.
Vous dites toutes les options, ça veut dire qu'il y a d'autres options possibles ?
Ben, on peut imaginer beaucoup de choses. La question d'un nouveau référendum est portée par certains. Est-ce que s'il y a ce rejet, c'est la deuxième fois, la première fois le vote n'a pas eu lieu, elle a eu un vote de confiance, cette fois-ci elle repropose le texte. On peut imaginer peut-être que ça mette en cause quand même sa position politique et que de nouvelles élections aient lieu au Royaume-Uni. Pour mettre qui à la place de Theresa May, ça c'est la vraie question, parce que il n'y a pas de leader qui se dégage et elle a quand même obtenu la confiance de ses troupes avant la pause de Noël, mais en tout cas la question n'est pas totalement exclue. La renégociation aussi est une option possible, je suis désolée.
La
renégociation, est-ce que les Européens, voyant ce vote négatif, pourront vouloir ouvrir une nouvelle porte? Jusqu'à présent, c'est un non négatif. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, l'a redit pendant les vacances de Noël. Peut-être qu'après le vote, les choses pourront changer.
Toujours sur le Brexit, vous parliez peut-être de renégociation potentielle, même si pour l'instant l'Allemagne notamment avait mis un veto. On parle notamment de difficultés, d'inquiétudes de la part des universitaires en Grande-Bretagne. Ça pourrait faire partie aussi de ce qui est dans la balance ou un moyen de pression ?
En fait, la question des universitaires est importante. Il y en a d'autres. Hein.
Bien sûr.
Ce que ça montre, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est un pays qui participe très activement à la recherche en Europe. Il y a des programmes européens qui sont financés et qui mélangent des chercheurs de différents pays. Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord, que se passera-t-il pour ces programmes de recherche qui sont engagés et puis pour la suite? Parce que on pourrait se dire, ils ont signé des programmes de recherche pour un certain nombre d'années, ça va aller au bout. Mais si le Royaume-Uni dit on quitte l'Union européenne et on arrête de payer, parce qu'ils ont encore, le pays a encore, devra encore payer après la sortie pour aller jusqu'à la fin du budget en 2021. S'ils arrêtent de payer, qu'est-ce que se passe-t-il pour les programmes en cours? Et là, c'est vraiment un océan d'inconnu.
À l'agenda européen également cette année, les élections européennes en mai prochain, avec la présidence de la Roumanie aussi, dans un contexte explosif, la montée des populismes.
C'est un peu un moment fort, ces élections européennes. Alors d'abord, effectivement, du point de vue européen, parce que le contexte de ces élections, c'est la montée de l'extrême droite, des partis populistes un peu partout en Europe, des pressions assez fortes sur l'état de droit dans certains pays comme la Pologne ou la Hongrie. En Roumanie, la Roumanie qui pilote depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union européenne, qui est censé être le pays qui aide à mener les négociations entre les différents États sur tout un nombre de sujets. Et la Roumanie actuellement gouvernée par la gauche, qui est ouvertement assez europhobe et a un président qui est pro-européen. Et pareil, vit dans son pays une réforme de la justice qui est assez critiquée du côté européen pour la pression qui est exercée sur les autorités judiciaires, justement.
Il y a aussi des manifestations, notamment en Hongrie. Aussi cette question du pouvoir d'achat, des peuples qui vont manifester aussi en gilets jaunes dans plusieurs pays européens.
Il y a une forte tension politique, pas qu'en France, effectivement. Le mouvement des gilets jaunes a été sporadiquement, comme ça, un peu récupéré à droite et à gauche.
En Pologne aussi.
Et ce sera, en fait, ces élections seront un signal politique assez important, parce qu'elles vont montrer si oui ou non ces partis, plutôt aux extrêmes, prennent du poids au Parlement européen, arrivent à s'agréger. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aujourd'hui. Qu'ils obtiennent la majorité paraît peu vraisemblable, parce que ce qu'on entend, c'est que de toute façon, le Parti populaire européen, qui est la droite, devrait quand même avoir le plus de députés, pourrait faire une alliance avec les libéraux, pourquoi pas avec les verts, pourquoi pas avec les sociaux-démocrates, et ça ferait une majorité. Néanmoins, il y a quand même aujourd'hui trois groupes qui sont à la droite de ce Parti populaire. Et que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont gagner encore des voix? Jusqu'à quel point? C'est une vraie question qui est posée aujourd'hui.
En Europe également, la question de la taxe GAFA. La France applique cette taxe normalement depuis mardi, donc 1er janvier. Pierre Moscovici a annoncé que la taxe est toujours sur la table au niveau européen. On en est où? Est-ce que c'est possible de la faire passer au niveau européen?
Question.
La taxe est toujours sur la table. Ça sera très, très difficile de la faire passer au niveau européen. Il y a des pays qui sont franchement hostiles. L'Irlande en est un. Certains pays qui ont tout fait pour essayer de vider le texte de sa substance et qui sont encore hostiles, notamment l'Allemagne, qui craint que ça ait des répercussions sur la compétitivité de son industrie, notamment automobile. Franchement, ça paraît aujourd'hui extrêmement compromis.
Merci beaucoup, Clémentine Forissier. Vous étiez notre invitée sur France
Merci
Culture. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Contexte sur Internet. Merci à vous.
Et merci à vous également, Sophie Delpont. On termine avec un mot rapide de météo et une France coupée en deux. Ciel très nuageux à couvert au nord, ensoleillé mais froid au sud. Les températures, elles seront généralement comprises entre 3 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Florence Turme pour le prochain journal de la rédaction.